Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast. Tous les mardis, c'est l'actualité des expositions et aujourd'hui plein feu sur les affiches cubaines que le Musée des Arts Décoratifs de Paris expose en ce moment. Une belle manière de plonger dans le design graphique cubain entre propagande imposée et grandes audaces artistiques. Pour nous en parler, ce matin, mon invité, la commissaire de l'exposition, Amélie Gasteau.
Le Réveil culturel. Mardi, Expo.
Après la Révolution à Cuba, le Musée des Arts Décoratifs de Paris dévoile jusqu'au 2 février l'âge d'or de l'affiche cubaine, celle des années 60 et 70 particulièrement. L'exposition Révolution et Cinéma permet de découvrir à travers 300 affiches l'éclosion de cette grande école d'affichistes cubains qui va évoluer avec l'histoire du pays, bien sûr, mais pas seulement. Bonjour, Amélie Gasteau.
Bonjour.
L'évolution se fait aussi avec tous les courants artistiques.
Oui, alors effectivement, tous ces affichistes cubains qui créent vraiment une école de l'affiche cubaine à ce moment-là vont aller puiser leur inspiration dans tous les courants les plus contemporains qui se développent. Entre autres aux États-Unis, puisque beaucoup vont regarder du côté du pop art, de l'optical art, du psychédélisme, mais aussi d'autres iront regarder du côté plutôt polonais, dans la tradition de l'école de l'affiche polonaise.
Et alors, ce qui donne donc une école très libre, paradoxalement libre, je dirais, on va bien sûr parler du contexte politique, ou on va carrément commencer par parler du contexte politique qui va d'ailleurs être assez étrange parce que Castro va quand même refuser de s'aligner sur ce qui était à l'époque à la mode dans le bloc soviétique, c'est-à-dire un art pompier qui caractérisait les régimes socialo-communistes.
Oui, alors effectivement, Fidel Castro
veut développer une affiche à la cubaine.
Veut développer une école de l'affiche cubaine qui se définit à la fois contre l'esprit des agences de publicité américaines qui, depuis le 19e siècle, étaient implantées à Cuba et imposaient un style dans l'affiche venant des États-Unis. Et en même temps, il n'impose pas le diktat de ce qu'on les pays communistes alors imposaient dans l'affiche, qui était l'esthétique du réalisme socialiste, c'est-à-dire une affiche qu'on appelait bras levés, influencée par le constructivisme, où il fallait que les affichistes répondent presque à des normes graphiques imposées. Non. Fidel Castro laisse une totale liberté aux affichistes de l'époque qui...
Pour la forme.
En fait, Castro avait une phrase, pour la révolution, tout contre la voie révolution, rien. Dès lors qu'on ne critiquait pas la révolution, formellement, on était absolument libre, en tout cas dans le domaine de l'affiche, de faire référence au pop art, à l'optical art, en tout cas aux grands mouvements occidentaux.
En tout cas, l'affiche est très présente donc à Cuba. C'est bon de rappeler qu'en 1961, un certain Che Guevara, alors ministre des Industries, je crois, interdit donc l'affiche publicitaire. L'affiche publicitaire, elle est bannie. Et donc, ça devient un espace pour les créateurs. Alors, bien sûr, c'est des affiches de propagande politique, mais c'est aussi et beaucoup d'affiches de cinéma ou pour annoncer des événements culturels.
Oui, alors effectivement, Che Guevara est nommé en 1961 ministre de l'Industrie et après cette période de nationalisation où qui a touché aussi le monde de la publicité, puisque comme je le disais, les agences de publicité qui étaient présentes sur l'île depuis la fin du 19e siècle étaient des agences nord-américaines. Donc Che Guevara, ministre de l'Industrie, interdit l'affiche publicitaire. Il faut dire aussi que le blocus faisait qu'il y avait aussi beaucoup moins de raisons que l'affiche publicitaire qui vantait des produits de consommation
qu'on ne trouvait plus, du
existe.
Coup.
Voilà. Donc l'affiche à ce moment-là sera politique et culturelle. Et au niveau culturel, surtout cinématographique.
Alors, cette grande exposition balaye toute la période révolutionnaire de Cuba. C'est de 1959 jusqu'à 2019, avec quand même un focus sur l'âge d'or, parce qu'il y a eu un âge d'or, les années 60-70.
Oui, effectivement, l'âge d'or de l'affiche cubaine va être relativement court, puisque ça va durer 20 ans, puisque ça commence en 1959, arrivée de Castro au pouvoir, et à la fin des années 70, ça va commencer à décliner. Il va avoir une bureaucratisation qui va être de plus importante et qui va freiner quand même tout cet élan créatif. Et à partir du milieu des années 80 et après la chute de Berlin en 89, effectivement, là, il va avoir un arrêt de la production d'affiches cubaines.
Alors, les affiches qu'on peut voir en ce moment au MAD, vos propres affiches appartiennent à votre collection.
Oui, alors en fait, j'ai découvert ce fonds d'affiches cubaines qui n'avait jamais été exposé et qui était pourtant dans nos collections depuis 1979 grâce à une généreuse donatrice qui devait, dont on a eu très peu d'informations, qui s'appelait Gisèle Michelin et qui devait être une de ces intellectuelles. Elle travaillait, si les quelques informations que j'ai collectées, elle travaillait dans les galeries d'art, et je pense qu'elle devait aller à Cuba et elle a ramené à peu près 350 affiches qu'elle a donné en 79 au musée des arts décoratifs et qui n'avait jamais été présenté.
Alors, ce sont des pièces rares et ce sont aussi des pièces très très cotées. Je ne sais pas si vous le savez, Amélie Gasteau, mais l'été dernier, dans un magasin new-yorkais à Chelsea, j'ai essayé d'avoir quelques affiches cubaines de cette période-là, l'âge d'or, hein, une affiche cubaine qui annonçait un cycle John Ford à la Cinémathèque algérienne, et puis la fameuse affiche Libérée Angela Davis. Mm-hmm. Et ben, j'ai vu que c'était les affiches qui les plus chères, donc plus rares, très cotées. On est effectivement surpris par la beauté de ces affiches et surtout par les couleurs.
Oui, alors une des spécificités, des caractéristiques de l'affiche cubaine, c'est effectivement cette technique d'impression qui est de la sérigraphie et que les affichistes cubains ont su exploiter pleinement et qui permet comme ça des rendus de couleurs avec des grands aplats et une couleur très pure. Et les Cubains ont su exploiter, malgré les contraintes économiques et parce qu'il y avait des pénuries, la possibilité de ces ancrages, puisque par exemple Angela Davis, c'est une affiche de Félix Beltrane, bicolore, bleu et rouge, probablement parce que à ce moment-là, et Félix Beltrane le dit, il n'y avait dans l'atelier de sérigraphie que de bleu et du rouge. Donc cette contrainte économiques dues au blocus
ne les a pas empêchés de réaliser quelques très 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 belles affiches que vous exposez donc au Musée des Arts Décoratifs à partir d'un circuit qui commence d'abord par une première série d'affiches de figures héroïques de la Révolution, évidemment, telles que Fidel Castro et telles que Che Guevara.
Oui, alors la première partie de l'exposition s'intéresse à l'affiche politique et qui était imprimée, enfin commanditée par la Commission d'organisation révolutionnaire, qui était une institution que Fidel Castro a mis en place dès son arrivée et qui avait pour mission de propager les idées de la révolution à l'intérieur de l'île. Et effectivement, nombreuses de ces affiches mettent en avant les événements importants de la Révolution et ses héros étant Fidel Castro, Che Guevara, mais aussi quelqu'un qu'on connaît peut-être un peu moins et qui était un Barbudos extrêmement important, Camilo Cienfuegos. Beaucoup d'affiches le représentent, mais aussi une figure un peu moins connue, qui est le José Martí, le père de la de l'indépendance cubaine à la fin du 19e siècle, que Castro a érigé en héros national et dont il se revendiquait. Donc énormément d'affiches présentent José Martí.
Et si on parlait justement de cette affiche délirante, psychédélique de Che Guevara?
L'affiche, c'est une affiche, l'affiche de Che Guevara, qui a été dessinée en 1969 par Alfredo Rosgar, un grand maître de l'affiche cubaine, qui était le directeur artistique de l'organisation de Solidé pour les peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Et c'est une affiche donc qui vient de l'Ospahal, et on voit un Che Guevara totalement psychédélique, dont l'étoile qu'il avait sur son béret vient comme ça irradier la silhouette de Che Guevara dans un arc-en-ciel totalement psychédélique.
Voilà, une affiche à retrouver à la page de l'émission Le Réveil Culturel sur franceculture.fr, parmi quelques autres affiches que nous avons sélectionnées pour parler de cette exposition. Il y a aussi toute une partie, bien sûr, consacrée au cinéma, c'est-à-dire au cinéma cubain, mais pas seulement, au cinéma international.
Oui, alors, parce que l'autre grande institution, ou la grande institution culturelle que Fidel Castro met en place dès son arrivée, c'est l'ICAIC, l'Institut cubain d'art et d'industrie cinématographique, dès 1959, et qui avait une double mission, à la fois de produire des films et beaucoup de documentaires cubains qui mettaient surtout en
avant, on va dire, voilà,
la révolution, les idées de la révolution, mais pas que. De la même manière qu'il permettait une grande liberté formelle, Fidel Castro permettait à l'ICAIC de recevoir des films du monde entier, des films de la nouvelle vague française, du nouveau réalisme italien, beaucoup de films de Hitchcock, parce que Cuba était avant Fidel Castro et est encore un pays de grands cinéphiles. Et quand Castro arrive en 59, Cuba, il y a à peu près 450 salles de cinéma à Cuba, plus de 100 à La Havane. Et Fidel Castro pense que le cinéma est le moyen d'éducation et culturel qui peut parler au plus grand nombre de personnes, à la population entière de Cuba.
Mais que racontent les affiches? Moi, je suis très étonné. Par exemple, si on prend cet exemple incroyable, exemple, l'affiche cubaine du film de Francesco Rossi, L'affaire Mattei, eh ben, c'est Superman qui est représenté. Superman complètement ridiculisé, il faut le dire, puisqu'on voit très bien ses sponsors, ce sont des multinationales.
Oui, alors effectivement, il y avait une grande liberté formelle ici, par exemple, l'utilisation de l'esthétique pop art, mais il y avait une grande liberté de ton. Et dans les affiches de cinéma, ce qui réunit en fait tous ces créateurs, c'est le fait de rompre avec les codes de l'affiche de cinéma telle qu'elle était imposée jusqu'alors, entre autres, par les agences américaines, c'est-à-dire le portrait de l'acteur principal.
Des stars, de préférence, oui, ou une scène de film.
Ou une scène de film.
Là, ils s'affranchissent de toutes ces obligations commerciales.
Ils s'affranchissent de toute obligation commerciale et en fait, donner une libre interprétation du film qu'ils avaient vu. Ils se réunissaient, ils regardaient les films tous ensemble, tous les graphistes du bureau de design graphique de l'ICAIC. Et à la fin, en ressortait une libre interprétation du film.
Bien entendu, là, on voit qu'il y a aussi une influence des comics américains sur l'art graphique cubain. Si on parlait maintenant des couleurs, parce que c'est un festival de couleurs vives, pastels, que cette exposition consacrée aux affiches cubaines. Avec donc ces affiches, je vous recommande aussi l'affiche par exemple du film de Costa Gavras, Z. Et là par exemple, elle est très simple cette affiche. Le Z, il est en bleu avec un reflet rouge, tout ça sur fond blanc. Cette manière de choisir ces couleurs-là, ça répondait à quel besoin?
Alors ça c'est une affiche qui date de 2009 de Nelson Poncet, donc de la nouvelle génération, parce qu'on voit apparaître depuis quelques années une nouvelle génération de graphistes qui s'inscrivent dans les pas de leur père et avec, encore une fois, ils reprennent cette technique d'impression qu'on trouve à Cuba, on trouve pratiquement que ça, une impression en sérigraphie et qui permet comme ça une explosion de couleurs avec des grands aplats et des couleurs extrêmement franches.
El buen bailador lo destaca en su cintura.
Oye cómo suena, qué montuno. Oye cómo suena. Oye cómo suena, qué montuno. Oye cómo suena.
Por eso en mi Cuba entera lo bailan uno por uno, porque Cuba es un montuno vestido de guayabera.
Oye cómo suena.
Les affiches cubaines au musée des arts décoratifs Révolution et Cinéma de 1959 à 2019. Donc, on parle bien sûr de l'âge d'or des affiches. Amélie Gasteau, j'espère qu'on aura le temps de parler de la nouvelle école. Mais s'il fallait effectivement déambuler avec vous et à travers les 300 affiches exposées, il y a tous les courants d'art de la deuxième partie du 20e siècle qui sont représentés soit directement, soit par petites touches.
Oui, alors on trouve l'influence des courants modernistes et fonctionnalistes, par exemple, avec les très belles affiches de Félix Beltrán dans les années 60 pour la commission d'orientation révolutionnaire. On trouve des influences plutôt psychédéliques, avec même des couleurs orangées qui contrastent avec des rouges ou des marrons, et une typographie aussi. Alors, l'affiche cubaine est surtout une affiche figurative de l'illustration, mais par exemple dans les affiches de Fernando Rebeiro, qui est très influencé par l'esthétique psychédélique, on retrouve aussi l'utilisation d'une typographie qui se développe pendant ces années-là. Quelqu'un qui se démarque alors de l'explosion de couleurs, c'est le graphiste René Ascuy, ouais. On appelait Ascuy le négro, parce qu'il a une affiche uniquement en noir et blanc, et c'est un des rares qui part de la photographie et qui sûrement a regardé un graphiste polonais qui a fait toute sa carrière en France, qui s'appelait Roman Sislewicz, et donc une des affiches qui part de la photo très contrastée, où la trame devient motif et où les cadrages effectivement sont très audacieux. Et il y a peut-être le père de l'affiche cubaine, Eduardo Muñoz Bache, qui est le premier à avoir travaillé pour l'Icaïque et qui pour l'Icaïque réalisera plus de 2000 affiches, et qui lui est directement influencé par là plutôt une tradition de l'école de l'affiche polonaise, qui mélange à la fois noirceur et poésie dans un style illustratif qui aussi fait penser au dessin, à la naïveté des dessins pour enfants, et c'est comme ça qu'il finira sa carrière.
Oui, d'ailleurs la bande dessinée et particulièrement les comics américains sont une des influences de ces affiches cubaines. Toutes les affiches cubaines que vous exposez en ce moment au Musée des Arts Décoratifs, Révolution et Cinéma, ce sont des affiches qui ont eu une existence à Cuba, hein. C'est-à-dire il n'y a pas d'affiches interdites que vous avez pu exposer. Toutes ces affiches ont eu leur vie cubaine.
Toutes ces affiches ont eu leur vie cubaine. Certaines, alors je pense par exemple à celle du graphiste Osmani Torres, qui date de 1999 et qui est une réinterprétation d'un des grands films cubains, Mémoire du sous-développement de Gutiérrez, et qui en 99 en donne une nouvelle interprétation où il met en avant le drapeau cubain, mais la croix qui vient blanche qui vient se dessiner sur la partie rouge du drapeau cubain, tout d'un coup là dans l'affiche de Torres évoque le logo de la marque Chevrolet, et donc cette affiche a existé mais a eu une existence assez courte.
Alors que deviennent les affiches interdites par le régime cubain? Parce que je suppose qu'il y a eu des affiches qui ont dû être interdites, je suppose seulement, ouais.
Dans celles que nous avons dans les collections, aucune n'a été interdite, et je pense que si elle devait être interdite, elle n'aurait même pas été imprimée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Enfin, pour terminer cette exposition, met en valeur quand même quelques artistes avec leur nom, leur parcours. Que sont devenus ces artistes de l'âge d'or de l'affiche cubaine des années 60-70, Amélie Gastaud?
Pour beaucoup, ils ont fini leur carrière hors de Cuba. Beaucoup sont partis au Mexique essentiellement, puisque à la fin des années 70, quand il y a commencé à avoir une déjà moins de commandes et une censure aussi qui commençait à apparaître, ils ont pour la plupart sont partis de Cuba, sont devenus pour la plupart enseignants dans des universités au Mexique. Et finalement, à part Nico qui continue à avoir une production en tant qu'affichiste, les autres ont plutôt eu une fin de carrière universitaire.
Voilà, alors la France leur rend hommage. Est-ce que quelque part dans le monde, ces artistes sont connus, reconnus pour leur talent d'affichiste ?
Ils sont reconnus, mais il est vrai que c'est une école, l'affiche cubaine, qui a été très peu montrée, aussi à cause de l'isolement de Cuba. Et c'est vrai que même dans les livres sur l'histoire du graphisme ou l'histoire de l'affiche, c'est souvent une école manquante, et j'espère que cette exposition pourra la remettre en avant.
Le Réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr, et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Si vous êtes parisien, parisienne, ou si vous êtes de passage par la capitale, n'oubliez pas de consacrer un peu de votre temps pour voir cette excellente exposition au Musée des Arts Décoratifs. C'est jusqu'au 2 février, affiche cubaine, révolution et cinéma 1959-2019. Et on peut le dire, Amélie Gasteau, il y a un très très beau catalogue avec une centaine d'affiches de l'exposition.
Oui, j'étais ravie de faire ce catalogue qui présente en pleine page 100 affiches de nos collections et très beau catalogue dont les graphismes sont Brest, Brest, Brest.
Vous êtes aussi la commissaire de cette exposition, Amélie Gasteau. Merci d'être passée ce matin. Cette émission a été préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son ce matin Pierre Monteil. On se retrouve demain à la même heure, et demain c'est mercredi, on parlera cinéma. Bonne journée.
Bonne journée.